je suis arrivé jeune adulte, pour moi, c'était assez important de rapidement prendre ma place sur le marché du travail puis d'avoir un revenu considérable.
Tu peux frencher du Bobby Basini avec un verre de rouge, là, t'sais. C'est l'idéal. Musique de fond, Bobby Basini, c'est un bon pré-french.
Non, je suis pas gêné de le dire, notre famille est millionnaire.
Sans fil.
Et c'est ici qu'on apprend toutes sortes d'affaires sur des personnalités que vous aimez et qu'on ignorait sur eux. Notre invité aujourd'hui est Patrick Sénécal. Merci beaucoup d'être là, Patrick.
Merci de l'invitation.
Auteur, scénariste à succès qui a vendu plus d'un million de livres. Ça, c'est rare au Québec.
Ouais, semble-t-il, ouais. Ouais. Je suis chanceux. Et... je suis parmi les happy few.
Exactement. Ouais. Toi, tu voulais être médecin.
Oui, je voulais être médecin, mais mon père a toujours dit que, si Patrick devient médecin, moi je vais devenir pape.
Ah, alors, donc ton papa, il croyait pas trop?
Il croyait pas, parce qu'il pensait, que j'avais pas le talent, j'avais des bonnes notes à l'école, bon, ça allait bien, mais je pense qu'il a vu en premier, il a vu avant tout le monde, en fait, que j'avais pas la personnalité pour devenir médecin. Ma mère, elle était bien fière, évidemment, elle se disait, mon Dieu, mon fils médecin, c'est le fun. Mais mon père, il se disait, ça se peut pas, Patrick, il a pas la personnalité pour ça, puis il a eu raison.
Ta personnalité, quand tu étais plus jeune, comment tu l'as décrit?
Ben, j'écrivais déjà, j'étais déjà quelqu'un qui faisait des bandes dessinées beaucoup. Après ça, j'ai commencé à faire des histoires d'horreur à 11 ans. Je lisais des livres d'horreur, je montais des mini-pièces de théâtre à la récréation à mon école. J'étais déjà dans un... je faisais pas de sport. J'avais déjà le profil très artistique, là.
Intellectuel?
Intellectuel, mais pas nerd. Mm-hmm. Je réussissais à... c'est curieux parce que je réussissais à l'école à... mettons, à partir du secondaire, j'étais pas dans la gang des cools. J'étais pas parmi ceux qui pognaient des filles puis qui étaient j'étais pas dans cette gang là, mais j'étais pas non plus le rejet parce que comme j'étais très drôle en classe, comme je faisais beaucoup de j'étais très tannant, comme j'étais comique, on m'invitait quand même d'un party puis tout ça, puis Patrick, c'est le comique. On sortira pas avec lui, là. Aucune fille voulait sortir avec moi, mais il est drôle. Il est drôle. Mais oui, les filles m'intéressaient pas à ce moment-là. Fait que ça a commencé vers secondaire 4, là. Ça commençait à me fatiguer un peu. Mais avant ça, c'était le moindre de mes soucis.
Ouais. Et quand est-ce que tu t'es dit, je vais vivre de mon écriture? Parce que t'as été prof. Finalement, t'es allé en lettres.
Ouais.
Française, même à l'université.
J'ai commencé
t'as été
en sciences
pures
au cégep.
Oui, c'est ça. Ouais.
Puis après ça, j'étais allé en lettres.
Quel cégep t'as fait?
Drummondville.
Ah oui. Puis tu viens de là?
Tout vient de Drummondville, exactement.
Ouais. Et finalement, après, tu as été enseignant.
Oui.
Est-ce que tu t'es rendu compte que tu n'avais pas la vocation?
D'enseignement?
Oui.
Je pense que j'ai la vocation d'enseignement. Si je ne vivais plus de mes romans, je retournerais enseigner.
Ouais.
Ça, c'est clair. Oui. J'étais assez
même dans le contexte actuel?
Encore plus dans le contexte actuel, je veux dire. Je pense que l'enseignement a besoin de passionnés plus que jamais. J'étais quand même un prof passionné, je pense. Je ne pense pas que j'étais le meilleur prof pour, comment dire... tu sais, au cégep, il faut donner le cours d'analyse, dissertation, il faut faire des textes classiques. Puis, bon, je pense pas
figure
que j'étais...
de style.
Oui, bon, tout ça. Alors, je pense pas que j'étais le meilleur prof pour communiquer ça. Je pense pas que j'étais le meilleur prof pour enseigner une façon classique de faire une analyse, une dissertation. Mais je pense que j'étais un bon prof pour communiquer une passion, pour montrer à mes étudiants c'est important d'avoir de la culture, de la curiosité. Ça, je pense que j'étais pas pire. Je pense pas que j'étais le meilleur pour... c'est ça, là. Bon, enseigner là, le B.A.B.A. d'une bonne dissertation, quoique j'étais capable, là, j'étais pas niaiseux. Mais là, je pense que j'étais un bon communicateur.
J'étais un bon passeur
de passion. Ça, je pense que j'étais pas pire pour ça.
Ouais. Et sans doute pour dire aussi, si vous êtes ici, c'est que vous voulez écrire, donc écrivez. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un... Il y a beaucoup de Québécois qui...
Ils voulaient pas tous écrire en passant. Ouais. En art et lettres, il y en a qui voulaient devenir... parce que nous autres, à Drummondville, c'était mêlé. Il y en a qui c'était l'écriture, il y avait du cinéma là-dedans, il y avait aussi...
ceux qui cherchaient puis qui finissaient là.
Il y avait beaucoup de gens qui se cherchaient, qui savaient pas trop en quoi aller. Oui,
c'est
tout
encore
à fait.
Ça, hein?
Oui, tout à fait.
Mais ceux qui voulaient écrire, qu'est-ce que tu leur dis? Quelqu'un qui veut écrire aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Il y a sans doute des gens qui vont te voir. Tu fais beaucoup de salons du livre. Quand on a vendu un million de livres, évidemment, on est un auteur à succès. Puis les gens nous veulent avoir la recette de ce succès. Qu'est-ce que tu dirais?
Avant, j'étais très poli. Puis mettons qu'un jeune de 15, 16, 17 ans venait me voir et disait « Je viens d'écrire un roman puis je veux le publier. » Là, je disais, ben c'est bien, bonne chance, bravo. Là, maintenant, je leur dis, attention, là, t'as quel âge? Puis ils me disent, 16 ans, 17 ans. Ben, je dis, j'espère que t'es conscient que le roman que t'es en train d'écrire, tu le publieras sans doute pas. Parce que t'es très jeune. C'est normal. Je dis, moi, les romans que j'ai écrits à 17 ans, je les ai pas publiés. À moins que tu sois un génie. Ça, c'était un génie ou un très, 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 très doué, ce qui est pas impossible. Mais je dis, pense pas à publier, là. Pense pas à ça. Fais juste écrire. Écris tes histoires, fais-les lire, accepte les critiques, améliore-toi. À un moment donné, quelque chose va ressortir qui sera peut-être publiable. Mais pour l'instant, moi, c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que les gens pensent rapidement à publier, les gens pensent rapidement à... Et ça, je pense que ça vient de... Je pense que ça vient beaucoup de la télé-réalité qui veut faire des vedettes de tout le monde. Et je pense qu'il y a certains apprentis écrivains qui se voient des vedettes littéraires à 17, 18, 19 ans, ce qui est un peu rêve en couleur. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais je dis que tu peux pas écrire en pensant comme ça. Tu me demandais tantôt quand est-ce que j'ai commencé à penser à, écrire, à vivre de mon œuvre. De mon œuvre, en tout cas. C'est ça. Mais je me suis jamais mis dans la tête qu'il faut que... Moi, tout ce que je voulais, c'était publier à un moment donné. Là. Vivre de ça, je me disais, mon Dieu, ça, c'est un... Tant mieux, ça arrive, mais je ne pouvais pas écrire juste en espérant ça. On l'espère toujours un peu, là. Je ne jouerai pas les grands vertueux qui n'espéraient pas ça. Mais c'était, comment dire, fallait pas que j'écrive en fonction de ça. À 17 ans, j'ai pensé à ça, parce qu'à 17 ans, t'es prétentieux quand t'es un artiste. Tu penses que tu vas... Puis, je dis pas ça méchamment, là. Je l'ai été, moi aussi, puis c'est normal, t'es jeune, tu... Bon, mais à un moment donné, faut que tu travailles, faut que tu t'assoies, que tu te bottes le cul, puis que tu te mettes au travail, puis que tu sois plus humble vis-à-vis de ce que tu fais. Mm. Fait que de pouvoir en vivre aujourd'hui, c'est un grand privilège, mais quand des jeunes viennent me voir pour me dire qu'ils écrivent, puis qu'ils veulent devenir les nouvelles stars de la littérature, je leur dis « Attention, pense pas à ça. Fais juste écrire le meilleur que tu peux, puis après ça, les gens décideront si ça vaut la peine ou pas, mais t'as pas à vouloir transformer le monde de la littérature. Je trouve ça très ambitieux comme
c'est
mission. »
C'est ouais. sûr. En même temps...
Comme mais je leur dis d'écrire, cela dit. Oui. Je leur dis pas de. Ouais. Je ne vais pas avoir l'air rabat-joie, là. Mais je leur dis, pense pas à publier, puis retravaille. N'aie pas peur de retravailler. Puis voilà. Mais moi, donner des conseils, je suis pas un. J'aime pas les donneurs de leçons. Hein. J'ai parlé de ça souvent.
Est-ce qu'on t'en a donné, toi, des leçons?
On m'a pas donné des leçons, mais on m'a fait penser à des affaires. Moi, il y a un prof qui m'a beaucoup transformé à l'université qui s'appelait Vachon. Et qui c'était un cours de création littéraire. Puis justement, j'avais la prétention. J'écrivais, je publiais pas encore, mais j'écrivais, je faisais des premiers jets, puis je pensais que c'était super bon. Et lui, il me fait faire une nouvelle, puis il dit bon, on me l'a prêté telle date, je la corrige, je vous reçois dans mon bureau, puis je vous dis ce que j'en pense. Puis bon, fait que j'ai fait une nouvelle d'horreur, évidemment. Là, je le rencontre dans son bureau, puis il me dit, je vous ai donné B. Fait que je dis, vous avez aimé ça? Bah, il dit, moyen. Il dit, l'horreur, c'est pas tellement mon genre. Je dis, bon, OK. Mais il dit, cela dit, c'est bien fait, c'est bien écrit. Donc, c'est ça que je note, c'est efficace. Mais il dit, c'est un premier jet, ça. Hein? J'ai dit, oui. Ben, il dit, c'est ça. Il dit, ça paraît. Il dit, là, il dit, ce qui vous manque, vous avez le talent, mais là, ce qui vous manque, c'est le travail. Puis, si vous la retravaillez, je vais la corriger, puis je vais peut-être augmenter votre note. Je dis, ah, vous faites ça avec tous vos étudiants? Il dit, non, juste avec les écrivains. Et quand, il m'a dit ça, m'a rentré dedans. Il dit, vous pensez que je suis un écrivain? Bien, je pense que vous avez le potentiel de le devenir. Mais là, puis il me remet mon travail, puis il dit, allez travailler. Et ça m'a... Et c'est le premier prof qui m'a fait comprendre qu'il faut retravailler. J'ai eu des profs au cégep aussi qui m'en parlaient un peu, mais bon, je n'étais peut-être pas assez mature pour comprendre ça. Mais lui, il m'a vraiment... En tout cas, la manière qu'il a abordé ça, il m'a fait comprendre que... T'es bon, petit cul, là, voilà. Mais il faut que tu travailles aussi.
C'est
là,
ça, parce qu'en même temps, il a été positif.
Oui, oui, non, il a été très, très habile, là. Ouais. Il a été extrêmement habile. Fait que j'ai retravaillé mon texte.
Mais toi, t'étais-tu le genre premier jet, c'est ça qui est ça?
Oui,
c'est ça que...
oui, oui.
Parce que c'est difficile d'avoir... Combien de versions tu peux avoir d'un texte aujourd'hui, par exemple, ben, moi, Patrick, combien...
Ben, la manière que ça marche, en tout cas, dans mon cas, puis là, ouais. C'est chaque écrivain à sa façon, mais ouais. Moi, le premier jet, je le fais pas lire à personne. Le deuxième jet, je le fais lire à ma blonde. Qui est ma lectrice du gros bon sens.
Qui est psychologue, dis, d'ailleurs.
Qui est psychologue, ouais. En plus, ça fait qu'elle me donne des pistes. Puis en même temps, elle me dit, bon, ça, c'est trop long. Ça, je comprends pas. Ça, c'est plate. Ça, c'est bon. Et souvent, après ces commentaires, je coupe beaucoup. Là, je fais deux autres versions après. Et là, je vais faire lire à mon éditeur et à deux amis qui sont des lecteurs très importants, René Flagel et Olivier Sabineau, pour ne pas les nommer, qui me lisent les trois et qui me font après des commentaires solides. Qui m'amène à faire une autre version. Et après ça, ben, c'est fait. Ben, il y a des écrivains qui font encore plus de versions que moi, mais il y a des écrivains qui font lire le manuscrit uniquement par leur éditeur. Moi, j'aime bien mon éditeur, j'ai confiance en lui, mais j'ai besoin d'un peu plus de lecteurs que ça, surtout des lecteurs non convaincus. René Flagel, par exemple, est un gars qui n'est pas nécessairement un lecteur de polar, de romans d'horreur. C'est pas quelqu'un qui aime nécessairement... Il aime ça quand c'est bien fait, mais c'est pas un fan du genre... Alors, moi, je trouve qu'il est encore plus important de convaincre ces gens-là. C'est encore plus important, justement, de leur dire, « Gars, là, il y a du bon stock là-dedans. Là. » Mm-hmm. Fait que lui, je trouve ça important
d'aller le chercher.
D'aller l'impressionner, c'est ça. Ouais. Olivier, il aime l'horreur, il aime ça. Fait que lui, il voit les codes, puis il est capable de me guider s'il y a trop de clichés, tout ça. René, lui, c'est « je veux l'épater ». C'est ça.
Patrick Sénécal est mon invité, un auteur qui a tué pas mal de monde au fil des ans, finalement. Je ne sais pas si il les a comptés. Il va nous le dire après cette pause. L'auteur Patrick Sénécal est avec moi. Son dernier livre, « Ceux de là-bas » qui vient de paraître, est un thriller psychologique. Évidemment, je te disais avant la pause, as-tu déjà compté le nombre de personnes que tu as tuées dans tes romans?
Non. Non. Puis,
mais une méchante gang quand même.
Oui, parce que y a certains romans que c'est des comme le vide à la fin. Il y en a comme 70 qui meurent, mais tu sais, j'y nomme pas toutes, là, mais c'est comme une espèce de mass murderer, là. Fait que là, oui, il doit en avoir pas mal. Mais non, je sais pas, c'est une bonne question.
Est-ce que tu as un plaisir quand tu tues un personnage?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir à écrire des scènes d'horreur, des scènes de violence. Il y a quelque chose de... Oui, il y a un défoulement là-dedans. Il y a quelque chose de... C'est très grisant, écrire ça. Parce que c'est de l'émotion brute sur la page. Donc, quelque part, toi aussi, faut... Si t'écris ça complètement froidement... Tu passes un peu à côté. En même temps, il faut que tu gardes une certaine distance parce qu'il faut que la mécanique marche. Il faut que tout ça soit... C'est très chorégraphié, mes scènes de violence. C'est très articulé. C'est très... Tout le build-up qu'il y a eu avant pour en arriver à cette scène-là, c'est très, très fignolé.
Ouais.
C'est pas juste un gars qui arrive puis il tue quelqu'un avec un coup de gun puis ça finit là. Il y a tout... je vais tout installer quelque chose avec ça. Donc, il faut qu'en même temps, je sois dans l'émotion... Et qu'en même temps, j'ai cette espèce de distance clinique-là pour contrôler. En fait, souvent, le premier geste, c'est l'émotion.
Ouais.
Puis quand je le retravaille, là, je vais...
Tu vas finir.
J'en enlève presque tout le temps de la violence quand je me retravaille. Parce que souvent, la première fois, j'en mets trop pour rien. Parce que c'est défoulant, parce que ça fait du bien, parce que c'est le fun. Puis en me relisant, des fois, je me dis, là, tu beurres épais, t'en mets pour rien. Puis trop de violence, comme les mauvais films d'horreur d'ailleurs, trop de violence va lasser. Trop de violence va faire un effet, ça va être contre-productif en fait. Mmh. Ça va soit faire rire les gens, ou soit que ça va créer le « ben ouais, on le croit pas là ». C'est comme si on me voyait là d'en mettre puis dire « ah, je suis bon, hein, j'en mets du sang hein. ». Faut jamais voir l'écrivain au travail, faut jamais voir le réalisateur en train de faire sa super belle shot à l'écran. T'sais, faut pas voir le canard qui pédale en dessous de l'eau. Là. Faut donner l'impression que tout ça glisse normalement, même s'il y a du travail. Fait que quand tu mets trop de violence pour épater la galerie, Quand le lecteur voit que tu veux l'épater, je pense que c'est dangereux. Je pense que là, il faut... Mais en même temps, c'est mon jugement personnel. Il y a des gens peut-être qui trouvent que j'en mets trop, mais j'essaye d'avoir cette... Parce que mettre le plus de violence possible, le plus de sang possible, c'est facile. C'est pas ça qui est dur. C'est de rendre ça crédible, c'est de rendre ça efficace.
Est-ce que tu te poses la question des fois, ou tu l'as déjà posé, à savoir... On parle beaucoup en ce moment des auteurs qui, et de leur la vie de l'auteur dans son œuvre.
Ouais.
Hein? Il y a eu plein d'exemples. Il y en a même un là, qui au Québec, là, duquel tu as pris sa défense, Yvan Godbout, qui a même été accusé là, de...
Le thème exact, c'est qu'il... comment on dit ça? De pas propension, mais distribution de pornographie juvénile.
Voilà, parce qu'il racontait une histoire, genre Ansel et Gretel, puis bon...
La fiction, rappelons-le.
C'était de la fiction, voilà. Exactement. Bon, toi, est-ce que tu te poses la question? Est-ce qu'on m'accuserait de vouloir répandre de la violence alors que c'est une œuvre de fiction? Ou...
Ben, je me suis jamais posé la question avant ce cas-là. Ouais. Je veux dire, moi, je veux que ça se règle parce que, un, pour Yvan, pauvre Yvan, que sa vie est cauchemardesque en ce moment, mais aussi pour qu'on peut s'entendre une fois pour toutes sur ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que jusqu'à récemment, on pensait pas qu'écrire de la fiction pouvait nous amener en prison. C'est pas le cas encore, mais ça pourrait l'être, théoriquement. Parce que si jamais, s'il était reconnu coupable, et Dieu nous en garde, mais s'il était reconnu coupable, il y a un paquet de livres. Je veux dire, on va faire une chasse des sorcières dans les librairies, là. Je veux dire, on peut sortir plein de choses. On peut sortir à partir de quand quelque chose est de la pédophilie, à partir de quand quelque chose est un encouragement à la violence. Je sais, moi, dans les 7 jours du Talion, on voit pas le meurtre et le viol de la petite fille, mais on découvre son cadavre après, et l'assassin, le dit à un moment donné, par provocation, il dit « j'y ai fait ça, est-ce que je suis en train de faire de la distribution de pornographie juvénile parce que mon personnage dit ce qu'il a fait, même si je le montre pas graphiquement? » Comprends-tu? À un moment donné, ça devient complètement tordu, là, les interprétations. Mais jusqu'à maintenant, non, je m'étais jamais dit on peut m'arrêter pour ce qu'on fait. Cela dit, je sais depuis le début que on peut m'accuser et on le fait, et j'ai réfléchi beaucoup à ça, sur le fait qu'écrire de la violence comme ça peut être une forme d'encouragement à la violence. Que mes idées peuvent donner des idées au monde, puis que quand tu dis de la violence, ça peut te rendre violent. Ça, je le sais depuis le début. Ça me torturait beaucoup au début. Puis j'ai fait la paix avec ça, en parlant avec beaucoup de psychologues, entre autres, qui me disent que, ben non. En tout cas, la part des psychologues s'entendent qu'un livre violent peut pas rendre fou, là, peut pas rendre quelqu'un violent. C'est souvent un exutoire. C'est comme la tragédie grecque, c'est comme les tragédies antiques où que c'était une forme de catharsis et tout ça. Et de toute façon, il y a un réalisateur qui avait dit quelques années, qui a fait un film très violent, on lui avait dit, est-ce que vous n'avez pas peur de donner des idées aux gens? Rémi Bellevaux, pas le nommé, qui avait dit, écoutez là, il dit, depuis le début des temps, il y a bien plus d'histoires d'amour que d'histoires de violence. Il dit, trouvez-vous que les gens s'aiment mieux? Je veux dire, si l'histoire d'amour avait une influence, si l'horreur avait une influence sur les gens, ben pourquoi l'amour n'aurait pas? Je connais pas de couples qui sont sur le point de se séparer, qui ont été voir une comédie romantique, qui sont sortis en disant « Ah, on reste ensemble ». Ça marche pas comme ça, la vie. Et en plus, mes romans, je mets au défi quiconque de démontrer que mes romans sont une incitation à la violence.
Clairement.
C'est pas le cas.
Non. Et ils font beaucoup réfléchir.
J'espère un peu, en tout cas.
Les 7 jours du Talion, c'est un film, moi, qui m'a marqué, sincèrement, parce que...
Je suis très content de celui-là.
Vraiment,
très, très content.
C'est un de mes préférés. Ben, Patrick Sénécal, c'est un grand bonheur de t'avoir à l'émission. Merci beaucoup.
Merci.
Allez lire ceux de là-bas. Pas mal bonne lecture. Je vais la faire, moi aussi. À demain, tout le monde.